Le peloton RMC.
Georges Quirino.
Salut à toutes et tous, c'est bien, voilà, prenez place dans le peloton RMC, c'est le nouveau nom de votre podcast cyclisme. Grand Plateau devient le peloton RMC pour vous proposer plus de contenu, une émission au moins deux fois par semaine. On va vous offrir aussi la possibilité, c'est la grande nouveauté, de débattre avec nous. Pour cela, rejoignez le peloton RMC sur Instagram, @pelotonRMC, c'est très simple, pour avoir toutes nos dernières informations cyclisme avec nos reporters. Vous savez qu'on est sur toutes les courses pratiquement, nos interviews, les coups de gueule, les coups de cœur, les conseils de la Dream Team RMC. Et nos jeux, tiens, une petite nouveauté. L'idée, c'est de construire cette communauté avec vous. Le peloton RMC, c'est nous avec vous. Voilà, le peloton RMC, la composition cette semaine. Notre leader puncher, Jérôme Pinault, bonjour.
Salut Georges, bonjour à tous.
Ça te convient ça, le leader puncher?
Il est moins puncher qu'il fut un temps, mais bon, écoute,
ah oui,
ça punch beaucoup moins.
T'es devenu quoi? T'es devenu un rouleur ou quoi?
Je vais très vite en descente, tu vois ce que je veux dire.
Ah, n'importe quoi.
Le rapport poids-puissance est un peu inversé. Je suis beaucoup plus puissant maintenant qu'avant.
La légende du peloton RMC, la voix de l'intégral tour. Christophe Cessieux, bonjour.
Bonjour, bonjour, comment ça va?
Ça va, Christophe?
Les légendes sont mortes, non?
Bah non, bah, pas du tout. Je sais pas, enfin, attends.
Légende vivante.
Quand on voit Bernard Hinault, c'est une légende, il est toujours là, avec nous.
Ça va,
très bien.
Ce nouveau nom là.
Ouais,
j'aime bien. Moi.
Toi, t'es la légende comme ça qui est dans le peloton, tu sais, il se fait respecter. Il arrive jusqu'à. On ouvre le peloton pour le laisser passer.
La légende ne frotte pas.
C'est vrai.
On le laisse passer.
Les équipiers dans le peloton RMC avec notre capitaine de route, Pierre-Yves Leroux. Salut Pilou.
Salut Georges, bonjour à tous. De toute façon, tu frottes pas avec la légende. Hein. Tu te mets plutôt à l'abri du vent derrière lui.
T'es bien à l'abri pour le coup.
Normalement, on doit se mettre devant pour protéger sa légende. C'est
ouais, mais là, on
a changé un peu les choses.
Ça n'a pas changé grand chose là, si on se met devant.
Et le geek du peloton, lui, a toujours le regard sur son compteur, j'en suis sûr, sur ses stats. C'est Pierre Cochette. Salut Pierrot.
Salut Georges.
Ça va?
Ça va.
Bon, bah écoutez, on va lancer plein de nouvelles choses ensemble. Vous allez voir, vous allez découvrir avec nous. Le débat qui agite le peloton RMC aujourd'hui, c'est Jonas Vingegaard, solide vainqueur de la 109e édition du Giro. Il fait désormais partie du cercle très fermé des coureurs ayant gagné les trois grands tours. Alors on va se poser la question, à un mois de la grande boucle, Vingegaard redevient-il la grande menace pour Pogacar? On va voir. Certains vont dire ils font ça pour vendre le tour et tout. On va débattre dans un instant. Mais avant notre grand débat, chaque semaine, Jérôme Coppel et Jérôme Pinault lancent le peloton RMC avec leur briefing.
Le peloton RMC, le briefing de Jérôme.
Le briefing de Jérôme, parce que en fait, on a deux Jérômes.
Au moins, t'es pas obligé de changer de jingle tout de suite. Ça, c'est super pratique.
Ah, attendez, on économise de l'argent tous les endroits.
C'est pour ça qu'ils nous ont pris nous. Prénom.
C'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme Jérôme là dans le peloton?
Jérôme Cousin.
En portugais.
Alors, le briefing de Jérôme, des Jérômes, chaque semaine, en fait, c'est un conseil, un coup de gueule, un coup de cœur d'un de nos leaders. Aujourd'hui, Jérôme, tu voulais t'adresser à Paul Magnier, 22 ans, et donc vainqueur de trois étapes sur le Giro, qui a ramené le maillot cyclamen à Rome.
Oui, je voulais m'adresser à Paul pour lui dire, écoute Paul, maintenant c'est le début. C'est le début de la suite. Il a, comme tu l'as dit, très jeune, 22 ans. Il a gagné une 28e victoire chez les professionnels cette année sur le Tour d'Italie. Il ramène le maillot de Cyclamen à Rome. C'est le quatrième Français après Laurent Jalabert, Arnaud Démare et Nasser Bouhanni. Ce qu'il manque à ces coureurs-là ensuite, c'est de s'installer durablement dans le Tour de France. Parce que ça ne nous suffit pas, nous, le maillot Cyclamen. On veut le maillot vert maintenant, on veut des victoires sur le Tour, on veut une domination sur le Tour. Et Paul a tout de ce garçon qu'on attend depuis un moment. Ça tombe bien, il s'appelle Paul et a priori, ça marche pas mal quand tu t'appelles Paul dans le vélo en ce moment. On a besoin de lui et moi j'ai envie de lui dire, écoute Paul, c'est que le début. Il faut maintenant que tu te mettes en tête que t'es le patron. Il a déclaré hier qu'il a pris en maturité, qu'il sait être un leader. Mais maintenant, c'est toi le patron, c'est toi qui dois construire ton programme, c'est toi qui dois construire ton équipe, tu dois rassurer tout le monde. Et puis dans ton équipe est passé un garçon qui a eu le maillot vert, qui a commencé par les gagner les unes après les autres, les étapes autour. Et puis après, il s'est penché vers d'autres monuments, Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, il s'appelle Tom Boonen et il lui ressemble beaucoup. Il est très massif, il est charismatique. Tu as le talent pour ça, tu as tout ce qu'il faut autour de toi pour construire une légende, devenir le meilleur sprinter français de tous les temps, ou quasiment. Il faut maintenant bosser, continuer à être concentré, ne pas se relâcher. C'est que le début, le Tour d'Italie. C'est un passage obligé pour les jeunes en devenir. Mais toi, tu as beaucoup plus que ça.
Ouais, vous êtes d'accord avec le briefing de Jérôme, Pierre?
Ouais. Bah après, si on lui dit, Paul, tu vas devenir Tom Boonen, ouais, on achète. Mais pas évident de devenir Tom Boonen. Et Tom Boonen,
j'ai pas donné son nom, t'as vu.
Il a aussi c'est une légende qui est dure à porter et qui a été dure à porter aussi pour lui-même. L'avantage, c'est qu'il n'aura pas tout un pays comme avait Tom Boonen avec la Belgique. Et on sait ce que c'est que de porter tous les espoirs de la Belgique. En France, il risque d'avoir un chouïa plus la paix parce que déjà, il n'y a pas la même importance des classiques. Et il y a Paul Seixas qui va prendre pas mal de lumière. Mais c'est tout ce qu'on lui souhaite, d'être fort sur les sprints et surtout d'être fort sur les classiques parce que c'est ça qui manque un peu au cyclisme français et qu'on espère avoir. On l'espérait cette année, ça n'a pas payé encore, mais on l'espère pour l'année prochaine.
Ouais, alors quand Jérôme dit qu'il est déjà le patron, c'est pas encore tout à fait sûr parce qu'il a quand même dans la même équipe que lui un certain Tim Merlier.
Ça va être vite réglé, à mon avis.
Ah, ben je demande à voir. Le problème, c'est qu'on les verra jamais.
Il sera sur le tour
l'un face à l'autre.
Tim Merlier.
Tim Merlier,
sera
qui sera le patron de l'équipe Soudal et du sprint sur le Tour de France. Moi, je sais pas quel est le meilleur des deux aujourd'hui. Alors après, il y en a un qui a 33 ans, l'autre 22. Donc effectivement, l'âge aidant va faire que Paul va passer devant. Mais actuellement, moi, je suis incapable de dire quel est le meilleur des deux.
Hein. Pas faire le tour cet été, Paul Magnier, quand même pas.
Faut pas que Tim Merlier fasse un faux pas, hein. Ça c'est sûr. Il est très jeune, Paul Magnier, il a que 22 ans, il n'y a pas beaucoup d'étapes pour les sprinteurs sur le prochain tour.
C'est vrai,
Le prochain tour est très dur, mais je vois pas le Soudal Quick-Step y aller avec un Tim Merlier qui a pas validé les passages. Et pour l'instant, alors il gagne, mais il gagne au Tour de Hongrie, il gagne sur des classiques semi-classiques belges. Mm. Il faut qu'il fasse une belle approche du tour. Pour l'instant, il n'est pas prévu, mais si Tim Merlier va au tour, et s'il ne gagne pas les peu de sprints qu'il faut proposer à lui, alors le choix va, évidemment.
Pierre-Yves.
Et pour ce qui est de l'avenir, j'ai trouvé que sa victoire de jeudi était aussi très très intéressante parce qu'il a prouvé que il était aussi capable de passer les dernières difficultés quand on ne l'attendait pas, quand lui n'y croyait peut-être pas. Il a besoin de ça aussi, mais ça, je trouve que c'est plutôt par rapport au classique aussi, un enseignement intéressant à son âge, d'être capable d'aller gagner cette étape devant Milan, c'est fort quand même.
Magnier doit rêver du vert après le cyclamen. Vingegaard lui pense déjà au maillot jaune avec sa tunique rose sur le dos.
Vingegaard wins the Giro, cementing his Grand Tour legacy in the city at the center of his final three-week frontier.
Plus qu'une victoire aujourd'hui, c'est sa cinquième victoire. C'est historique, évidemment.
Årets Giro d'Italia, Jonas Vingegaard. Og nu vinder han altså for den her drøm opfyldt om at vinde i lyserødt.
Il repescatore fa sognare l'Italia. Arriva in gloria. Il Giro è tutto suo.
Ulla la la la.
Chapeau.
Ils sont bons à la télévision italienne.
Il l'appelle lui aussi, eux aussi là-bas, il l'appelle le pêcheur. Hein, il pescatore.
Mais, dire, non, attends, il rei piscatore, le roi des pêcheurs.
Génial, génial, incroyable. Comme surnom.
C'est génial pêcheur. Ou pas, franchement, je sais pas. En fait, est-ce que c'est la classe?
Non, c'est moins. Ouais. Ah bah, c'est sûr qu'ils auraient pas appelé Cipollini comme ça.
Ouais, le requin de Messine pour Nibali, c'était stylé, le roi des pêcheurs.
Le roi pêcheur.
Moi, je kiffe les pêcheurs, pas de problème avec ça. Mais
est-ce que ça fait peur? Du poisson.
En fait, c'est mieux que le roi nettoyeur de poissons.
Ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est. Aquaman, Sailor Man, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Quoi. Oui, bah, évidemment, c'est pour son passé. On rappelle, il a travaillé sur les marchés aux poissons. Apparemment, il n'a même pas été vraiment pêcheur, hein, je crois d'ailleurs. Non. Jonas Vingegaard, vous avez écouté la petite production préparée par notre productrice Roxane Nakuska, on a entendu du danois, hein, notamment, pour bien se rappeler la belle prononciation de Vingegaard. Donc, sans surprise, il a remporté à Rome son premier Giro en décrochant 5 étapes. Donc, il fait partie du club fermé de ceux qui ont remporté les 3 grands tours avec Anquetil, Gimondi, Merckx, Hino, Contador, Nibali et Froome. Au général, il s'impose avec 5 minutes 22 quand même d'avance sur Félix Gall et 6:25 sur Jay Hindley qui complète le podium. Donc il vise maintenant la victoire sur le Tour. Alors il se dit plus en forme que jamais. À un mois de la grande boucle, Vingegaard redevient-il une grande menace pour Pogacar? C'est notre sujet 10 jours. D'abord, tiens, peut-être un petit tour de table. Est-ce qu'il vous a impressionné sur ce Giro? Franchement, Christophe,
J'ai pas été impressionné parce que je m'attendais à voir un Vingegaard de ce niveau-là. Ce qui m'a pas du tout impressionné, c'est l'adversité qu'il a rencontrée sur ce Tour d'Italie. Après, il a fait le job, il a gagné les étapes comme il fallait. Son équipe a été vraiment de très bon niveau et ça, c'est plutôt une bonne chose pour en vue du Tour de France. Impressionné, non, mais je l'ai trouvé à son niveau et fidèle au rendez-vous. Donc voilà. Après, L'adversité fait qu'on ne peut pas s'enthousiasmer pour l'instant. Quoi.
Pierre, pour Vingegaard, ce qu'on avait annoncé comme ultra favori, effectivement, on n'est pas surpris d'avoir pu gagner.
Puis on en avait parlé la semaine dernière, où on était quand même assez, enfin moi notamment, je ne vais pas m'avancer pour vous, mais assez dubitatif sur ce qu'il avait fait jusque-là. J'avoue que sur la dernière semaine, il m'a beaucoup plus plu. Dans l'attitude, effectivement, il est allé chercher les victoires qu'il voulait. Il a fait contrôler beaucoup plus que les deux premières semaines où il avait beaucoup laissé partir les échappées et puis se désintéresser de la course. Là, il a vraiment pesé sur la course. Il a fait peser sur la course son équipe. Il est allé gagner ce qu'il fallait. Il est parti à 10 km de l'arrivée sur la grosse étape de montagne. Il n'a pas attendu les derniers hectomètres. Avec des chiffres de rapport poids-puissance dont parlait Jérôme, qui sont pour le coup assez impressionnants sur les deux grosses montées qu'on a pu voir, et qui le replace, alors pas forcément au niveau de Pogacar, mais un peu plus dans le game, et ça lance un peu plus le Tour de France que les deux premières semaines du Giro, où il allait gagner, mais sans convaincre.
Jérôme ?
Il m'a pas impressionné, mais j'ai été agréablement surpris par sa façon d'aborder les choses, et notamment dans la dernière semaine. J'ai apprécié qu'il mette un point d'honneur à aller gagner cette dernière étape, par exemple. J'ai apprécié son comportement avec Sepkus. Il a pas offert, il a laissé faire en étant en surveillance. Il a pas laissé dérouler cet échappé. Ils finissent pas si loin finalement. Et j'ai aussi beaucoup apprécié son comportement. J'ai trouvé vachement plus ouvert sur ce Giro.
Sympa, souriant.
Que voilà, plus blagueur, heureux, plus
moustachu,
heureux.
Même. Moustachu.
Et poil aux pattes hier.
Poil aux pattes aussi.
Hier. Donc, tu vois, j'ai échangé avec Brian Holm, qui était le consultant danois pour Eurosport là-bas sur la course. Brian était là-bas. Il dit ce qui a beaucoup changé aussi, c'est que son épouse est beaucoup moins présente dans l'environnement général de l'équipe. Il n'a pas besoin d'elle pour être ouvert. Il n'a pas besoin d'elle pour être protégé. Il se sent très à l'aise. Et sa façon de courir s'en est un peu ressenti. Je trouvais qu'il était libéré. Comme si ça s'est fait. Il a quand même énorme respect. Il a gagné les trois grands tours quand même. Hein. Donc c'est un immense champion. Et la façon dont il a couru, je l'ai senti libéré. Comme si, ça c'est bon. Maintenant, le tour, il arrivera ce qu'il arrivera. Mais j'aurais au moins fait ça. Parce qu'il est quand même allé chercher 5 étapes. Très difficile.
Pogacar avait gagné 6.
Et Félix Gall. Ouais.
Et 9 minutes d'avance.
Et la 6e, il l'offre à son coéquipier. Tu vois. Donc c'est aussi un signe. Il aura besoin de Sepkus sur le tour. Et puis, Félix Gall n'est pas le meilleur coureur de tous les temps, mais c'est quand même solide. Et il l'a claqué, il l'a fessé, il lui a mis 5 minutes, terminé, bonsoir, on n'en parle plus. Jusqu'à l'arrivée de Paul Sexas, qu'on n'avait pas prévu si vite, le leader de l'équipe CMA, CGN Décathlon, c'était Félix Gall.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est quand même dire le niveau qu'il y avait sur ce Giro, même si, évidemment, il retrouve son rang dans la planète cycliste, c'est-à-dire celle de poil à gratter Tadej Pogacar, mais deuxième derrière lui jusqu'à preuve du contraire.
Je rappelle
sur les grands tours.
CMFM fait partie du groupe CMA-CGM. Pierre-Yves, alors c'est vrai que Christophe l'a dit aussi il y a quelques instants, est-ce que l'adversité ou le manque d'adversité qu'on avait un petit peu pointé du doigt trouble un peu l'analyse pour Vingegaard et sa victoire ?
Oui, forcément, mais
moi, je pense pas.
Comme disait Pierre, on l'a senti un peu sur la réserve en début. Enfin voilà, il était en gestion et il avait raison parce que c'est un double coup pour lui. C'est-à-dire que à la fois il va gagner à nouveau un grand tour. Ça veut dire qu'il en a un en 22, en 23, en 25, en 26. Il y a 24, mais on sait ce qui s'est passé. C'est quand même impressionnant. Et deuxième coup, c'est de préparer le Tour de France parce que finalement c'était ça aussi. Et il n'a pas puisé énormément parce qu'il n'y avait pas une adversité. Moi, je veux bien Félix Gall. Je veux bien que vous m'en parliez, mais Félix Gall par rapport à Pogacar, c'est très 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 loin. Donc Vingegaard, il est pour moi le numéro. Je le laisse en numéro 2 parce que Paul Sexa sur 3 semaines, on ne sait pas. Et donc voilà, c'est le poil à gratter. Effectivement, pour moi, c'est un petit poil à gratter parce que Pogacar est largement au-dessus. Et malheureusement, j'ai peur que le suspense soit vite éventé. Mais en tout cas, il ne m'a pas impressionné, mais il m'a convaincu. J'ai bien aimé sa façon de gérer et le fait aussi. Alors c'est sûr, vous avez vu, à 5-6 km, il démarre, il est tout seul, mais il continue à faire l'effort, il continue à creuser comme s'il était dans une prépa. Et je trouve que là, il n'y a rien à lui reprocher. Et ce n'est pas de sa faute si les équipes équipe et les présente des leaders qui sont des leaders un peu moindres. Voilà, lui, il a fait le taf, il n'y a rien à lui reprocher.
Non, mais même si on a encore entendu cette semaine, alors peut-être avant les dernières victoires d'étape, on avait entendu par exemple Vincenzo Nibali en Italie lui reprocher de ne pas faire le spectacle, il a quand même toujours ce truc un peu derrière lui de... On a l'impression que ce sera jamais suffisant, en fait, ce que peut montrer Jonas Vingegaard, parce que Pogacar nous a tellement mal habitués dans une certaine façon que on voudrait que Vingegaard gagne avec 10 minutes d'avance, comme Pogacar l'a fait sur le Tour d'Italie quand il l'avait remporté. On a l'impression aussi... que rien ne sera jamais suffisant pour qu'il rentre dans les cœurs de ceux qui sont plus limitatifs sur sa personnalité, sa façon de courir. Moi, je trouve ça injuste.
Oui et non. Il y a deux points noir sur ce Giro. On en avait parlé.
Le
contre-la-montre. Ok. Bon, après...
Il y avait un virus, par exemple.
Voilà. Et cette fameuse étape où il laisse rouler Félix Gall pour le sauter sur la ligne. Ça, mine de rien, quand on parle panache et quand on parle impression générale, parce que c'est vraiment que de...
Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit lui mettre 5 minutes à Félix Gall après les étapes de montagne.
Soit il lui laisse gagner, soit il fait ce qu'il a fait en
dernière. Mais si Pogacar fait ça, on lui reprochera jamais, en fait. Moi, c'est ça que je trouve insupportable.
C'est pas vrai. Pogacar, soit il fait ce qu'il a fait en dernière semaine, c'est-à-dire je fais ma course tout seul, je fais rouler mon équipe et j'attaque et j'en ai rien à faire du gars qui est derrière moi ou pas et qui reste ou pas et qui d'ailleurs reste pas. Et dans ce cas, je fais ma course tout seul. Et là, tu peux
pas. Oui, mais accepte qu'il puisse y avoir des doutes sur la première semaine, pour lui, sur son niveau de forme et qu'il.
Oui, mais dans ce cas, tu le sautes pas sur la ligne. Dans ce cas, tu le sautes pas sur la ligne.
C'est de la compétition. Hein.
Oui, d'accord. Mais encore une fois, là, on parle.
Ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas le laisser faire sous prétexte qu'il a chassé pour toute l'étape. Mais tu te fais défoncer si tu le passes pas. Il a pas le droit de le faire. Ouais. Ses équipiers vont bosser après pour lui. Alors c'est ça, on offre les étapes. Tu peux pas. T'as pas le droit de le faire. Ils ont fait pour moi. Excuse-moi, et même si c'est une équipe qu'on aime bien, ils ont fait de la merde ce jour-là. Pourquoi ils ont roulé? Ils ont cru que Félix Gall allait lâcher Vingegaard. Erreur fatale, tu laisses faire les meilleurs déjà. La marge, elle est énorme par rapport à lui.
Non, mais
ils le savent. Bah, pourquoi ils ont roulé du coup? Il fallait laisser faire Vingegaard. Si tu voulais espérer battre Vingegaard sur le long terme et lui faire aller dans les retranchements, ce qui va aider ton futur leader sur le Tour de France. Tu vois, l'idée, c'est que tu bosses fort et tu vas dans tes retranchements, mais pour que tu tapes un peu plus dedans que ce que tu avais prévu. Bon, ils lui ont mâché le travail. Mais tant pis pour eux, hein, ils se font trifler.
Et puis Vingegaard, il veut aussi impacter la concurrence. Mais, hein. Il voulait arriver, je pense, à la fin du Giro en disant, regardez, j'ai gagné tant d'étapes.
Mais ce côté
j'en ai gagné 5.
Oui, mais dans ce cas, tu le relayes. Dans ce cas, tu le relayes.
Moi, je pense que Vingegaard souffrira toujours du délit de sale gueule, en fait, quelque part.
Parce
qu'on l'a toujours comparé à Pogacar. Pogacar et son panache. Pogacar et sa classe. Pogacar et sa façon de courir. Lui, il est plus dans la gestion, et puis rappelez-vous, quand il a osé battre Poggi sur les Tours de France, et depuis ce jour-là, il a été moins populaire. Et même tous les problèmes qu'il a rencontrés derrière n'ont pas suffi pour remonter la cote de Vingegaard.
Mais qu'est-ce qu'il doit faire?
Il peut rien faire.
Mais il doit battre Pogacar en lui mettant 15 minutes sur une étape du Tour.
Il doit venir sur Paris-Roubaix, il doit venir sur le Tour des Flandres, il doit venir sur le Championnat du Monde, il doit venir
avoir la même popularité que Poggi.
Et il doit surtout pas.
Mais c'est pas ce que faisaient les coureurs de grand tour il y a encore 5 ans. Enfin, en fait,
aujourd'hui,
l'actualité, c'est ça.
Il y a Pogacar, et pour être aussi populaire que lui.
Et moi, j'ai reproché à Van Der Poel et Van Aert de pas gagner les grands tours, en fait.
Non, mais parce qu'ils n'ont pas physiologiquement les qualités pour.
Oui, mais Van Der Poel et Vingegaard, il n'a pas la physionomie pour gagner
Paris-Roubaix.
Tu sais pas.
Mais qui attend que Vingegaard gagne Roubaix?
Non, t'as raison, Pierre-Yves.
C'est
la même chose.
C'est le même profil.
Ouais. Ils ont ce petit côté un peu rachitique, pas super beau, ils n'ont pas la classe du champion, ils ne sont pas charismatiques.
Moi, je me souviens très bien du jour où ils gagnent le contre-la-montre
à Combloux.
L'erreur fatale de communication, et c'est là où ça finit de dégoûter beaucoup, c'est qu'ils parlent de ses watts, et notamment en disant en plus... Ah, j'ai atteint des niveaux de watts, je croyais que mon compteur déconnait. Mais c'est pas des déclarations.
C'est pas ça que tu dois dire.
Il a été maladroit, là.
Bah oui, mais depuis ce jour-là, il y a beaucoup de gens qui ont dit bon, lui, laisse tomber.
Ouais, et moi, je le trouve touchant, Vingegaard. Je le trouve touchant avec ses proches.
Écoute-moi sur ce Giro.
On l'a eu en interview en début d'année dans Bartoli Time. Hyper sympa, ambitieux. Il nous le disait par rapport à son année. Moi, quand je regarde son année, je me demande, mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus, ce mec?
Mais les gens n'aiment pas les gens sympas.
Non, mais attendez. Non, mais on lui reproche de peut-être. peut-être pas être un foiré classe dans sa façon de gagner, mais regardez comment il gagne sur Paris-Nice dans des conditions apocalyptiques sur une étape, il arrive à le faire. Il gagne sur le Tour de Catalogne. Mais il gagne sur le Tour de Catalogne dans cette étape. Moi, je l'ai déjà répété 50 fois. Ou à un moment donné sur le plat, Evenepoel part. Il arrive à revenir dans sa roue alors qu'on est sur le plat. Il revient dans la roue du meilleur rouleur du monde. Et il le fait. Enfin, c'est-à-dire que.
Oui, mais on l'a aussi vu sucer la roue de Pogacar pendant des étapes, pendant des kilomètres.
Mais on a vu aussi les Visma le faire tomber Pogacar avec un travail d'équipe qu'on n'a jamais vu depuis des années, des années. Mais tout le monde l'a oublié. Tout le monde l'a oublié. Non, mais moi, je veux pas être le défenseur de Vingegaard.
Mais comme tu défendais Chris Froome à l'époque. Mais c'est pareil. Tu aimes bien les mecs qui ont un côté un peu loser.
Mais je me bats contre l'injustice et les étiquettes qu'on met parfois à certains coureurs.
C'est ça, ouais.
Non, je voulais critiquer sur Van Aert et. Mais on est passé à autre chose. Sur Van Aert et Van Der Poel qui, quand même, font spectacle sur le tour, même s'ils ne le gagnent pas, ils font spectacle quand ils y vont. Et Vingegaard, quand il fait une course d'un jour, il ne fait pas le spectacle. On l'a vu 2-3 fois au championnat d'Europe ou sur la Classica San Sebastian. Il se fait larguer comme Chris Froome, époque.
Mais ce n'est pas son truc. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Ce n'est pas son truc.
Il ne vient pas.
Alors, Indurain, c'était un sale coureur. Il n'allait pas sur les monuments.
Le plus passionnant des coureurs, quand même.
D'accord. Contador, un mauvais coureur.
Contador, il est.
Chris Froome,
parce que Contador, il
oublié de l'histoire.
Il a le panache d'attaquer ses adversaires.
Parce que Chris Froome, il t'a fait vibrer, toi.
Non, mais pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'être un coureur ultra complet.
Non, mais en plus, attention,
il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le côté coureur. Il y a aussi la personnalité du mec. Et la personnalité, elle est moins charismatique que celle de Pogacar. Et il sera toujours comparé à lui.
Mérite-t-il?
Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est injuste. C'est injuste pour lui.
Ce sont des faits quand même.
Mais c'est pas pour ça que moi, il va m'enthousiasmer quand je le verrai au bord de la route. Je me rappelle la présentation, c'était à Florence, présentation des coureurs au départ du tour, c'était il y a 2 ou 3 ans. Pogacar qui arrive, l'aura de la star avec des gens qui l'entouraient, le sourire à tout le monde, une méga star, une star hollywoodienne. Derrière, il y a le petit Vingy qui arrive avec sa. Mais il était gentil, il était.
Mais qui est beaucoup plus sympa que Pogacar en plus.
Il est beaucoup plus sympa. Il était avec sa femme et sa petite fille, mais il était là, il regardait par terre, il a pas le charisme. Mais tu peux pas lui en vouloir. Mais tu peux pas changer les choses.
Parce que moi, je suis comme Marc Madieu. Moi, j'aime bien les champions qui ont des craquelures comme ça, qui sont imparfaits. Quand il se met à pleurer, il nous parle de santé mentale, de ses difficultés. Moi, je préfère ça plutôt que le champion qui casse tout, le Merckx, quoi. Ouais. Tu vois, je préfère Ocagna, quoi. Voilà.
Non, mais attends, Pogacar, c'est pas Merckx quand même.
Non, mais.
Après, il y a aussi.
Dans le comportement, c'est pas tout.
Oui, dans le comportement.
Sur la route,
dans son vélo, comportement, il y a aussi, quand tu compares les deux, il y a vraiment deux approches différentes du cyclisme. Pogacar slovène, proche de l'Italie, éduqué par des Italiens dans une équipe qui a beau être UAE, c'est un staff italien. C'est latin, ça va plus.
Oui.
Ça va plus dans l'expression.
Vingegaard, c'est l'équipe Visma,
avec les déclarations de son patron qui nous explique
la fameuse bière de Marc Madiot et de son équipe.
Oui, c'est ça.
On a été bon dans la com.
Ils ont été très mauvais, je pense.
Voilà, on aime ou on n'aime pas. On n'a jamais entendu Mauro Gianetti, le manager de l'équipe UAE, nous expliquer comment il fallait s'entraîner, nous expliquer comment Tadej faisait et nous expliquer qu'on était nuls. On l'a jamais entendu faire ça.
Alors que
peut-être qu'il le pense. Mais il court après notre petit français, donc ils doivent pas le penser jusqu'au bout.
Ouais, mais
alors
que Vingegaard, Visma,
à l'époque c'était Jumbo Visma, quand ils ont gagné le tour, ils nous ont expliqué qu'on était des gros nazes, des fêtards, des bouffeurs de saucissons et de bière, et que si on faisait comme eux, on y arriverait.
T'es un rancunier, toi aussi.
Bah ouais, mais il le traîne, ça, non?
De toute façon, ça n'a jamais été ton copain.
Ah, mais jamais. Je n'ai pas donné son nom.
Non, mais par ailleurs.
Après Matin.
Souvenez-vous que cette polémique, ils la sortent justement pour éviter l'autre polémique qui était celle de Combloux et des Watts.
C'était un contre-feu.
C'est un très bon communicant, c'est son métier.
Parce qu'on n'a parlé que de ça.
Voilà. Et on en reparle encore deux ans et demi après.
Bon, revenons au Vingegaard du jour.
Déjà le nom.
Vingegaard, le roi pêcheur. Il n'y a pas de surnom au Pogacar d'ailleurs.
Vingy
Poggy. Poggi. Il faudrait leur trouver des surnoms, hein, ces mecs-là. Là. C'est vrai que les Italiens le font. Il faut qu'on installe quelque chose avec Pogacar.
Ah, Poggi, il préfère pas en avoir. Poggi, c'est le roi des pêcheurs, si tu veux. Il préfère rester à sa place. Hein. Poggi, tu fieras.
Non, mais pour revenir à Vingegaard, c'est vrai que son équipe communique beaucoup sur le fait que l'enchaînement des grands tours, en fait, est plutôt en leur faveur. Parce qu'ils s'appuient sur ce qui a été vu sur la Vuelta l'année dernière. Hein. Ils nous disent que sur le Tour d'Espagne remporté par Vingegaard, les données ont montré qu'il était en forme et que l'enchaînement finalement peut lui permettre d'arriver sur le Tour de France en meilleures conditions. Je rappelle juste le passé proche que l'on a sur les enchaînements Giro-Tour de France. Évidemment, on est matrixé par Pogacar qui gagne le Giro et qui gagne le Tour de France derrière. N'oublions pas Froome qui gagne le Giro, qui ne gagne pas le Tour de France derrière. Contador qui gagne le Giro, qui ne gagne pas le Tour de France derrière, alors que ce n'était pas la même en plus adversité sur le Tour ensuite. Pierre, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça forme de Vingegaard.
Sur la fameuse déclaration de « Oui, regardez nos données à la Volta, on était meilleurs que sur le Tour », sachez que dans le même temps, ils ont aussi dit, notamment Vingegaard, « Ah ouais, mais sur cette Volta, j'ai été malade, j'étais pas au top, c'est pour ça que sur l'Angliru, j'ai suivi Almeida et j'ai pas attaqué, etc. » Donc en fait, soit il a des meilleures données, soit il est malade, mais ça peut pas être les deux en même temps. Parce que s'il a des meilleures données en étant malade et sans attaquer Almeida, on a un problème en fait. Donc j'ai un peu de mal avec ce côté « oui, regardez ».
L'exemple de la Volta, voilà. Quoi.
Pourquoi pas, hein. Mais en l'occurrence, vous avez juste dit le contraire pendant la course. Donc peut-être que vous... Voilà, je vous crois pas. Mais après, ça reste un sport où on peut raconter n'importe quoi.
Oui.
Les données sont pas
parfaites. C'est rare.
Non, mais il dit « je ne suis pas sur les rotules » avec un petit sourire, Vingegaard.
Ça, il n'a pas l'impression d'avoir
été fatigué comme Froome et Contador quand ils ont gagné le Giro.
Dans ses réserves. Il a l'air même plutôt frais comme un gardon. Après, il a déjà son poids de forme. Maintenant, il ne faut pas qu'il reprenne de poids d'ici le départ du Tour. Moi, je ne le trouve vraiment pas entamé. Je ne sais pas si, au bout de la troisième semaine du Tour de France, il risque de payer ça ou non. Mais pour l'instant, je trouve que la gestion a été parfaite.
C'est la sixième semaine de gros travail. C'est la sixième semaine d'absence de la maison. C'est la sixième semaine où tu es la tête absolument à 100% dans le vélo. C'est la sixième semaine où tu fais attention à tout. Il y aura forcément un moment où il va devoir se régénérer. C'est ce qu'il va faire, a priori, très vite à la maison, puis retourner à Tignes pour récupérer en altitude, pas forcément beaucoup travailler, mais récupérer en altitude avec la famille. Il ne faut jamais oublier que pendant ce temps-là, le meilleur coureur du monde, quoi qu'il arrive, c'est lui le meilleur, il n'a non seulement pas couru, il n'a pas tapé dans l'énergie, il était à la maison, il s'est affûté, et lui aussi, il bat ses records de watts.
Il va faire le tour.
Donc
de
moi, je veux bien. Moi, je veux bien qu'on m'explique qu'après 3 semaines de vélo, il était plus fort l'année dernière. Oui, mais ça reste de l'adversité. Où en seront les autres? Avoir tes super watts, c'est bien. Mais si tu as toujours l'autre qui est meilleur que toi, ça ne va pas changer grand-chose. Est-ce que la meilleure des préparations pour gagner un Tour de France devant un garçon extraordinaire dans tous les sens du terme, c'est de faire une course de 3 semaines en Italie avec peu d'adversité? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit la meilleure des solutions, puisque le meilleur ne le fait pas. Alors après,
mais est-ce que psychologiquement, mieux de se préparer en faisant la course plutôt que de se préparer
en gagnant
plutôt que
la différence. La différence, elle est là.
Bouffer c'est des que il
est allé. Qui nous a expliqué à la base? Ils ne peuvent pas le dire comme ça, mais on est à peu près sûr que gagner le Tour de France, ça va être très compliqué. Et il n'y aura pas de grand favori au départ du Tour. Donc Jonas a envie de gagner un Giro parce qu'il veut gagner les 3 grands tours et gagner des étapes. Et il a peu gagné l'an dernier, donc il a envie de gagner cette année. Très bien. Mais de nous dire que le Giro a servi de préparation parce qu'au Tour, il va être meilleur, ça, c'est pipeau. C'est pipeau.
Mais en tout cas, il n'y a pas eu, pour l'instant, d'anicroche au plan. Non. C'est-à-dire que le climat, la météo a été parfaite sur le Tour d'Italie.
T'as raison.
L'adversité...
Oh, parfaite au début du Giro.
Le premier jour en Bulgarie.
L'étape gagnée par Arrieta, ça a été une galère pas possible. Demande au courant derrière.
Il n'y a pas eu de gamelle. Ses équipiers sont impeccables. Franchement, franchement,
ils vont être renouvelés à 70%.
Tu aurais pu imaginer qu'à la fin du Giro, il soit dans un état un peu plus difficile. Là, en l'occurrence, le plan se déroule parfaitement.
Maintenant, c'est une prépa.
C'est une prépa.
Donc, qu'est-ce qu'il faut mieux pour le psychologique? Et on sait que ça, il peut y avoir des fragilités pour Vingegaard, effectivement, d'aller se préparer au Tour de France en gagnant plutôt que d'être en stage. C'est pas forcément tout le temps marrant. Et puis d'arriver de toute façon, ça change
quoi? Trois semaines de vélo avec trois semaines de bus, des transferts interminables.
Mais ils sont où les autres? Ils sont en Espagne.
De toute façon,
sera meilleur. 200 bornes de bus par jour. Les autres, ils sont pas au protocole après l'étape. 200 bornes de bus, arrivé tard, les tifosi qui crient dessus et une photo et un truc. Non, c'est pas une prépa, c'est pas un stage, c'est une course.
On est d'accord. Ça sera meilleur à l'arrivée. De toute façon, que tu te prépares en stage ou que tu te prépares sur le Giro, il va pour faire deuxième.
Ouais.
Et là, je suis d'accord. Et
il va pour faire Sinner, deuxième.
Sinner allait gagner Roland Garros, sauf que Sinner gagne pas Roland Garros. Ouais. Et donc Vingegaard peut gagner le tour. Oui, c'est une possibilité.
Franchement, il va pour faire deuxième Vingegaard. Moi j'y crois pas. Moi je suis convaincu que Vingegaard pense qu'il peut gagner le tour.
Il l'a déjà battu, donc il pense qu'il peut gagner.
Il pense que Pogacar peut aller tout droit dans une descente. Ça peut arriver. Il peut choper un virus.
Est-ce qu'on est tous d'accord?
Mais s'il lui arrive pas de problème sur le tour, c'est Pogacar qui devrait gagner.
Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que on l'a jamais vu aussi en forme depuis sa grosse chute autour du Pays Basque il y a deux ans?
Vingegaard. Moi, j'ai pas de repère par rapport à ça.
Attendez, les gars, il a dominé toute la saison, tout ce qu'il a tenté.
Oui, je suis assez d'accord avec ça.
On ne peut pas avoir une idée complètement claire tant qu'il n'y a pas eu d'opposition entre les deux. Les deux hommes se sont soigneusement évités tout au long de la saison. Oui. Donc tu sais pas ce que ça vaut. Tu ne peux pas t'étalonner.
Christophe.
Dans l'attitude, dans ce qu'il propose.
Oui, tu peux dire qu'il est revenu à son niveau.
Oui.
Mais en revanche, le niveau de Pogacar à l'époque est différent. C'est ça le truc.
Franchement, l'année dernière, il était quand même à un top niveau. Il finit deuxième, il était quand même un bon.
Oui, mais est-ce que tu trouvais qu'il avait le même niveau qu'avant sa gamelle?
L'année dernière, il a eu aussi le traumatisme crânien à Paris-Nice qu'il n'a pas eu cette année. Il a perdu du temps dans sa prépa. Mais est-ce qu'il est. Moi, je ne suis pas capable de savoir parce qu'il s'est confronté à un très bon niveau, mais ce n'est pas le top niveau Catalogne. Evenepoel, il a fait out complet au Catalogne. Donc, finalement, qui est-ce qu'on avait besoin de savoir s'il était meilleur qu'Almeida? Oui, on pense qu'il était meilleur. Il est meilleur que Félix Gall? Il n'y avait pas besoin du Giro pour le savoir. Que le Pellizzari? On sait. Que Evenepoel en montagne? Oui, on l'a vu aussi. Maintenant, ce qu'on veut savoir.
Mais il a la forme aussi, il n'est pas inquiété du tout dans toutes ses courses.
Oui, mais justement, ça ne fait pas de toi un champion.
Alors justement, mais en revanche, et c'est ça où c'est très fort, il a évité toutes les chutes, toutes les embrouilles à Paris-Nice, et pourtant, c'était pas évident. Il a évité toutes les chutes, toutes les embrouilles au Giro, et c'était pas évident non plus de demander à l'équipe UAE.
Exactement.
Donc ça, en fait, le plan se déroule sans accroc, je suis d'accord, mais le plan initial était d'être en embuscade pour le Tour, mais pas le grand favori. Donc il est... Le plan est sans accroc. Il a, par ailleurs,
ça reste identique.
Il est plus détendu. Il l'a dit hier en interview. Oui, j'ai un peu fini le jeu. Donc, parce que j'ai gagné les trois grands tours et j'ai un peu fini le jeu. Et donc, du coup, il a dit, mais même si ma carrière s'arrête là maintenant, elle est accomplie.
Zéro
donc,
pression.
Maintenant, effectivement, il a ce côté
personne
zéro
personne ne
pression.
Le voit gagner.
Mais donc, il va arriver sur le tour sans énormément de pression.
Et
il a rempli son objectif de la saison. Maintenant, il est là pour empêcher Pogacar de gagner.
En face, il y a un gars qui doit en gagner 5 pour être parmi les meilleurs. En face, il a un jeune loup français qui débarque sur la course. Et lui, effectivement, il va être détendu.
Il y a quelque chose qu'on n'a pas pesé non plus sur ce Giro et dont vous partez le principe qu'il est venu en stage. Aussi l'équipe. C'est l'équipe. Parce que moi, j'ai vu hier Victor Campenaerts finir la dernière étape. Lui, il va falloir qu'il récupère. Lui, il a fini râpé complet. Sepp Kuss, c'est pas du grand Sepp Kuss. Alors, ok, il a fait les trois grands tours il y a 3 ans maintenant.
Il a gagné la Vuelta.
C'est plus le même. C'est plus le même du tout. Il va avoir besoin de ces garçons-là.
Ah, il a retrouvé un peu de sa superbe.
Parce qu'il
quand
a
même.
Gagné une étape, mais il a pas mis tout le monde.
Bon,
celui qui a été exceptionnel, c'est Rex. Mais lui, il y sera pas. Par contre, les autres, il faut qu'ils récupèrent. Récupérer, ça veut dire quoi? Retrouver ta capacité totale, être à 100% physique, mais aussi dans la tête. Et dans la tête, d'aller se remettre dans le bain, des prépas, d'être au millimètre surtout. Il ne reste plus qu'un mois. Ils ont besoin en moins de 10 jours pour récupérer là. Donc derrière, ça veut dire que tu remets tout à bloc et que tu arrives prêt de nouveau à te sacrifier pour le leader. Moi, je peux te dire que Victor Campenaerts, il ne l'a jamais fait. Je ne suis pas sûr que ce soit l'homme de la situation.
Pierre-Yves. C'est un élément important et c'est ce qui a changé aussi ces dernières années. Les premières années, vous vous souvenez, Pogacar, on disait de toute façon, il est capable de gagner le Tour tout seul. Et puis, il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Ouais. Derrière, aujourd'hui, il a une équipe, effectivement, quand
très
on compare.
Forte.
Ah ben oui, je suis désolé, mais...
Celle de Paul Sexas va avoir de la tronche aussi. Hein.
Oui. Mais attention, oui. On n'a pas tous les éléments, comme je le disais tout à l'heure, sur une course de 3 semaines pour Paul Sexas. Mais c'est sûr, ils sont bien depuis le début de la saison, donc ça sera intéressant. Mais si on compare entre les deux, entre les UAE et les Visma, pour moi, effectivement, il n'y a pas photo. Campenard, c'est très fort, mais il va falloir qu'il récupère. Sepkus, franchement, oui, il va gagner une victoire d'étape, mais quand il faut mettre un relais, il met 500 mètres et puis
c'est plus comme avant.
Il met le clignotant.
Pas d'accord, Pierre.
Non, alors effectivement, après sa victoire d'étape, il n'y avait plus personne, mais avant sa victoire d'étape, c'est quand même lui qui fait avec Piganzoli, ils se sont partagés les rôles, les rampes de lancement
plus,
à chaque fois. Donc,
Piganzoli, à la fin, pareil, il y a une rampe, elle a duré 500 mètres.
Oui, ça suffit. Pour le coup, on a vu plein de fois Pogacar attaquer avec Narvaez.
Moi, je suis à peu près persuadé qu'ils n'ont pas préservé Kuss pour le tour. Kuss, il a été à son niveau, on lui a pas dit tu fais que 500 mètres, parce qu'au tour tu feras un kilomètre.
Ça, c'est pas
non, non,
mais attention, que 500 mètres. Et attention aussi au parcours du tour cette année. Le parcours du tour cette année, on part à Barcelone, on va tout de suite être dans le dur.
Chrono par équipe.
Permettre de mettre en route gentiment.
Mais sauf
parce qu'au bout de 5 jours, le Poggi, il peut déjà t'avoir mis une minute. Hein.
Sauf que l'équipe de Vingegaard,
avec Van Aert qui a gagné Roubaix, lui, il va être complètement freelance.
Elle était à la Sierra Nevada pendant avec Sexas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que Van Aert soit complètement freelance maintenant.
Tiens, alors,
je pense que Van Aert, justement pour les 3-4 premiers jours, il sera là.
Ouais,
après, par ailleurs, les Visma, ils vont pas avoir le même rôle qu'ils ont eu là, de contrôle de la course, de lancer. On s'en fout en fait de la rampe de lancement. Les rampes de lancement, elles auront un maillot blanc avec
exactement,
des rampes noires
c'est vrai.
Et du rouge. En fait, Sepkus, il sera juste là pour filer des bidons. Et il y aura Jürgensen.
Ouais, hein.
Sepkus, il va faire le dossard d'Isaac Del Toro devant lui qui va lancer Pogacar.
Voilà.
La Visma ne sera pas dans la même position.
Non,
sauf qu'à un moment, il faudra peut-être être offensif aussi pour les mettre en difficulté, pour les tester. Sinon, il va toujours à sucer les roues.
Comme le Granon.
Mais exactement.
Là, Pogacar était tout seul à l'époque.
Là, pour le coup, si tu me dis est-ce qu'on va revoir le Granon,
non, mais Pogacar est dans la même équipe j'ai bien compris que sur la question de notre podcast, est-ce que Vingegaard redevient une grande menace pour Pogacar, vous n'êtes pas franchement convaincu. Mais je vais vous poser une question quand même pour terminer. Est-ce que vous trouvez quand même que Pogacar, là au départ, avec un Vingegaard qui retrouve quand même un niveau très intéressant, avec un Sexas qui arrive maintenant avec la possibilité peut-être de l'embêter, est-ce que c'est pas sur le papier pour Pogacar le tour qui peut être le plus dur depuis 3 ans pour lui à gagner, franchement, Jérôme?
C'est possible. Pour moi, il a plus pas peur, parce qu'il a peur de personne, mais il a plus d'incertitude de ce que peut offrir ce duo-là avec la perf de Vingegaard et l'incertitude autour de Paul Sexas, que va-t-il faire? Après, c'est possible que la concurrence soit la plus rude. Mais est-ce qu'il a peur pour autant? Je crois pas.
Non, pas peur, mais en tout cas, l'adversité est plus armée.
Mais Georges,
ça se trouve, au bout de 3 jours, ça sera plié.
Oui, mais d'accord. Mais
c'est notre jeu aussi de dire que le Tour de France ne sera jamais aussi passionnant et aussi disputé. Je me rappelle, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, on parlait des 4 fantastiques qui étaient alignés au départ du Tour. On disait que c'était extraordinaire. Pogacar, Vingegaard, Evenepoel et Roglic, ça allait être une bagarre de tous les instants. Et puis en fait, la bagarre a été vite réduite.
Ouais, mais là, tout le monde est là quand même.
Là aussi, il y a deux ans, il y avait tout le monde.
Moi, j'avoue, je ne fais pas ça pour vendre l'épreuve. J'y crois franchement que ça peut être le tour le plus
dur. Mais moi, j'espère.
Depuis 3 ans.
Pense, sans y croire, on l'espère tous. Maintenant, il a pris l'habitude quand même de casser notre enthousiasme assez rapidement, le Slovène quand même. Hein.
Pierre.
Non, mais d'habitude, les 2 derniers tours, il surveillait un gars.
C'est ça le truc.
Là, il va surveiller un peu plus qu'un gars. Mais après,
n'oublions pas Lipovic, hein. Lipovic et Van der Poel, le duo
donc
de chez moi. Bah non, mais il faut pas les oublier.
Oui, oui, oui.
Non, mais lui, il peut pas les oublier,
non.
Pas,
non. J'ai l'impression que Christophe,
il rigole
croit pas,
déjà, hein, avant, voilà, le départ. Voilà.
Mais non, il dit ça, mais ah, c'est, il croit moche, pas non plus. Il y croit pas une seconde, Jérôme. Là, il fait semblant. Il disait, mais il meurt pas du tout, arrête.
Ah non, mais alors, vite, quand même.
Par contre, ils vont attaquer. Non, mais les Red Bull, ils vont attaquer. Ils vont attaquer. Ils vont peut-être faire n'importe quoi, mais ils vont attaquer.
Ils vont attaquer trop fort, quand même. Quand ils attaquent, après, ça fait mal. En général, ils se font mal quand ils attaquent.
En vrai, le chrono par équipe inaugural, il faudrait pas que ça embête trop, enfin que ça fasse des écarts trop importants.
Alors,
en général,
le truc c'est que c'est pris sur, tour, hein, pris sur une tête, voilà, hein, donc
mais ouais, déjà, chrono par équipe, c'est pas tout à fait vrai, c'est un train, c'est un train de sprinter sur
c'est un lancement, en fait, c'est voilà, c'est ça exactement.
Plus beaucoup d'intérêt, c'est contre le monde par équipe.
Tu vas s'y aller, on va le tour de l'été, hein.
Alors moi je trouve que ça a un super intérêt parce que ça flingue complètement, c'est pas du tout le sujet, mais ça flingue complètement ces fameuses stratégies à j'ai deux leaders, j'ai un leader, j'ai deux leaders. En fait, à la fin, vu que maintenant
oui, t'as raison, c'est comme
donc toi, qui va, est-ce que Lipovic, il va se relever quand il aura lancé Evenepoel ou vice versa sur la dernière côte? En fait, ils vont attaquer tous les deux ensemble et du coup, il y en a pas un qui va rouler pour l'autre. Donc
parce que Van Aert, en revanche, va sûrement se mettre au service de Vingegaard.
Bon, Jonas, Jonas, tu sais ce qu'il serait à faire si tu nous écoutes. Tu te reposes tranquille, tu vas pêcher, tu récupères les jambes en l'air et puis préparation.
Arrêtez avec la pêche.
Tranquillement. Non, allez les amis, maintenant sur chaque podcast du début de semaine, on a une nouveauté, c'est qu'on joue.
Le sprint final du peloton RMC.
Ah, on va tester vos connaissances et voir un petit peu si vous suivez l'actualité ou l'histoire du cyclisme. Le sprint final, c'est après la flamme rouge de mes podcasts. 10 questions, 1 point par bonne réponse et on dressera au fil de la saison de classement par points.
J'en ai marre
notre
des jeux à chaque
peloton
fois, dans une émission
RMC. Chacun joue pour soi. Le
j'ai l'impression que depuis que Georges est revenu, on fait que jouer. Non, mais on fait que des jeux.
Non, mais c'est bien. Ça nous permet de réviser en plus l'histoire du cyclisme, les amis. Alors, question à une seule réponse possible. Les gars, une seule réponse, vous jouez chacun pour vous. Jonas Vingegaard a donc remporté son 4e grand tour en Italie. En quelle année a-t-il remporté son premier grand tour?
2022.
Christophe, c'est sûr. Ah, il a bossé en fait.
J'aurais bossé, j'ai fait aucune course.
1-0 pour Christophe. Question à plusieurs réponses possibles, les amis. Davide Piganzoli finit premier italien de ce Giro, terminant 8e au général. Qui est le dernier italien à avoir fini sur le podium du Tour d'Italie? Plusieurs réponses possibles.
Sur le podium.
Ouais, le dernier.
Caruso,
exactement. En 2021, 1 point pour Pierre. Il a terminé 2e. Question à une seule réponse possible, les gars. Vingegaard fait donc désormais partie du club des vainqueurs des 3 grands tours, comme Bernard Hinault. Le blaireau, tiens. Il a gagné combien de grands tours dans sa carrière?
9.
12.
11.
8.
C'était 10, personne n'a la réponse. 3 Giro, 5 tours et 2 Vuelta. Mais quel monstre!
Ah, 2 Vuelta, j'en avais qu'une.
Allez, donc toujours 1 point pour Christophe et Pierre. Une seule réponse possible, les gars, vous vous concentrez. Le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Débute donc ce week-end.
Dauphiné.
Ça commence ce week-end. Combien de fois Vingegaard a terminé sur le podium?
A terminé sur le podium 3 fois.
Trois fois, Christophe, oh là là, c'est incroyable.
Par hasard, effectivement, il a révisé.
Il a fait nous croire,
il a gagné.
Bluff.
Jamais gagné.
Il a gagné, bien sûr, en 2023. Une fois en 2023 et 2 fois deuxième en 2022-2025. Une seule réponse possible, les gars. Pour l'instant, c'est Christophe qui mène. Qui est le dernier vainqueur français du Dauphiné?
Christophe Moreau.
Pierre et Jérôme, allez, 1 point pour les deux. Pierre et Jérôme, Pierre-Yves, tu nous dis quand tu joues avec nous. C'était en 2007, hein, Christophe Moreau, donc on cherche toujours un héritier.
Pourquoi pas, non, ça y est, c'est que ça.
Ah oui, mais sur le Dauphiné. Il faut suivre.
Ça pourrait se produire rapidement.
Allez, plusieurs réponses possibles, les gars. Donc Moreau a aussi gagné en 2001, figurez-vous. Avant lui, un autre Français s'est imposé en 98 devant Peña et Teterjuk. C'était qui?
Armand de las Cuevas.
Armand de las Cuevas, Jérôme. Deux points pour Christophe, 2 points pour Christophe, 2 points pour Pierre.
C'est ça, l'air.
Ah ouais, si Armand de las Cuevas, faut le sortir comme ça, tu vois. 98, belle année.
T'as couru avec lui.
C'est un beau cru, 98, pour le vélo.
Grand vélo.
Une seule réponse possible, tout juste, les gars. Il y a 20 ans, tout juste, Ivan Basso remportait le Tour d'Italie. Il courait à l'époque pour quelle équipe?
L'Equigas.
Non.
Le Tour d'Italie?
Trop tard. Une seule réponse possible, c'est sorti.
Basso.
Une seule réponse possible.
Je sais pas.
Taiko.
Non,
non.
Non, les gars, 4, 3, 2, 1.
Ma paye.
Non, c'était la CSC, les amis. On embrasse Bjarne
Riis.
Salut Bjarne.
Il l'a gagné avec Vegas aussi.
Ouais, mais c'est pas l'année que je demandais.
C'était 2010.
Allez, toujours 2 points pour Christophe, Jérôme et Pierre. 0 pour Pile. Une seule réponse, les gars. Le plus proche l'emporte. Mario Cipollini est le recordman d'étape sur le Giro. Combien de succès pour le sprinter italien? Vous avez droit à une réponse, le plus proche l'emporte. Cipollini, Super Mario.
35.
35 pour Pierre.
27.
27 pour Christophe.
Le plus proche l'emporte.
Pierre-Yves, il attend la
Pierre-Yves, fin. Pierre-Yves, voilà. Il regarde, là, il attend, il a, il a regardé.
Allez, les gars.
32.
32. 30. Le plus proche, c'est Pierre, parce que c'était 42. Donc wow. Pierre prend le lead.
Grande Pierre.
Allez, plus que deux réponses, deux questions. Une seule réponse possible pour cette question. Mathis Rondel termine premier français du Giro.
11e.
11e du général. C'était
bien,
pas la Pilou, question.
Merci.
Ah, c'est
pas
un
la
point,
question.
Ça.
Non, c'était pas, la, non, c'était pas la question. Qui était le meilleur français l'an passé du Giro?
Ah, c'est dur.
Pas simple, hein. J'avoue, quand je l'ai vu, j'avais zappé.
Le premier français du Tour l'an dernier.
Une seule réponse possible.
C'était la formation.
Nicolas Prodhomme. Nicolas Prodhomme, ah, Jérôme, le poulain de Christophe Sessieux.
Qui a remporté l'étape.
3 points pour Jérôme, 3 points pour Pierre, 2 points pour Christophe, 0 pour Pile. Allez, dernière question. Quel coureur a enfin fait son retour et gagné 2 étapes sur les boucles de la Mayenne cette semaine?
Olaf Koy,
Jérôme Pinot remporte ce premier jeu, sprint final. Ben voilà, comme paf, à la photo finish.
Très impressionnant, hein, c'est une bonne nouvelle pour le Paul Sexas.
Voilà, bravo, mon cher Jérôme.
Je suis parti lentement.
T'es parti lentement,
le puncher,
mais
le puncher, on l'avait dit.
Le puncher, t'as giclé comme ça sur le final.
T'es parti trop vite, t'as fait une fringale.
Incroyable. Vous êtes là, les gars.
J'ai faim quand même, là.
Vous êtes là. On remercie Pierre-Yves Lehaut d'avoir participé à ce jeu.
Ça commence quand, le jeu, là? C'est quoi la première question?
Merci Pierre, merci Christophe, merci Jérôme, merci à tous. Vous rejoignez le peloton RMC, évidemment, sur Instagram et sur toutes les plateformes de podcast. On va vous parler, restez connectés, de la préparation de Paul Sexas cette semaine et vous présenter donc celui qu'il faut appeler le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Salut les amis.
Le peloton RMC.